Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Alors bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Alors nous ne venons de vivre un tunnel de COP. COP biodiversité, COP climat, COP plastique, COP désertification. Et à quoi bon tout ça, allez-vous me dire? Eh bien comme d'hab, il a fallu tenter de mettre le monde en harmonie face aux graves questions qui le menacent. Et c'est toujours décevant bien sûr, car le monde n'est pas parfait et que de plus en plus les menaces pèsent sur l'avenir de notre humanité. Mais on va essayer de voir à travers un bref balayage des événements des 2 mois qui viennent de s'écouler que la sensibilisation avance un petit peu. Moins vite que les menaces, certes, et il faudrait faire 10 fois plus. Pour autant, faut-il rien faire? Abandonner ces grandes messes mondiales? Alors, penchons-nous sur ces verres à moitié pleins, vecteurs des lois de demain, quand les déclarations ne sont pas seulement de la com, mais sont contraignantes. Il y a eu la COP 16, celle de Cali en Colombie sur la biodiversité. Nous en avons longuement parlé sur cette antenne et je vous renvoie au podcast de novembre. Cette COP intermédiaire n'a pas dégagé les financements attendus, mais ce fut une semi-réussite puisque presque tous les pays du monde sont en train de travailler à une stratégie qui permettrait de reculer les pertes de biodiversité. On a donc quitté simplement le souci que l'Europe pouvait avoir par rapport à cette perte de biodiversité. Et c'est un véritable exploit. Parce que depuis la signature en 1992, on voyait s'éteindre cette biodiversité sans que rien ne soit fait. Enfin, autre petite victoire, se dessine un financement du partage des avantages et des savoirs pour les peuples autochtones, gardiens de la biodiversité, matière première de nos industries pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires. Cette COP sera sans doute historique, en tout cas pour l'Amérique du Sud, de là où viennent nos principales richesses nutritives, la tomate, le maïs, la pomme de terre. Elle marque le début sérieux d'une prise en charge et l'on sait que la nature possède en termes de biodiversité un immense pouvoir de régénération. Serons-nous à l'heure? Certaines mesures permettraient de voir renaître nombre d'espèces aujourd'hui en voie de disparition. Pour tous ces pays dits biodivers, c'est-à-dire qui sont riches en biodiversité. Mais reste à mobiliser les entreprises. Elles ne mesurent pas les dégâts qu'elles peuvent causer et doivent intégrer cette préoccupation dans leur budget. Puis ce fut la COP 29 sur le climat, qui pour la 2e année consécutive se tenait dans un pays producteur de pétrole, bien éloigné des préoccupations climatiques.
La montagne aura finalement accouché d'une souris. 300 milliards de dollars par an dans 10 ans. C'est le montant que les pays développés se sont engagés à financer pour aider les pays pauvres à lutter contre le changement climatique. Au terme d'une COP 29 chaotique, les acteurs du monde en développement repartent chez eux en colère.
Nous quittons Bakou en sachant que nous avons réalisé des progrès dans certains domaines, mais que ce que nous avons obtenu est loin d'être à la hauteur de nos espérances.
Après 3 nuits blanches et des tractations interminables, ce dimanche, le coup de maillet final retentit au petit matin. Le président de la COP, ministre de l'écologie du pays hôte, l'Azerbaïdjan, fait adopter l'accord par consensus, provoquant des réclamations des délégations indiennes, boliviennes, chiliennes et suisses. Du côté des pays développés, c'est le soulagement.
300 milliards de dollars n'est qu'un point de départ. Nous sommes reconnaissants à l'Alliance des petits États insulaires et aux pays les moins avancés de la confiance qu'ils nous témoignent. Et je vous assure que nous tiendrons nos promesses.
Le 29e sommet pour le climat s'achève sur un moment d'autocongratulation du président de cette COP. Pourtant, Bakou aura été copieusement critiqué pour son organisation et sa répression des militants pour l'environnement et les droits humains. Comble de l'ironie, l'appel obtenu à la COP28 à la transition vers une sortie des énergies fossiles ne figure plus dans le nouvel accord et l'Azerbaïdjan prévoit même d'augmenter sa production de gaz destiné à l'exportation.
Les peuples autochtones souhaitent condamner les méthodes contraires à l'éthique et les résultats encore plus contraires à l'éthique que cette COP a produit. Il n'y a rien à célébrer ici aujourd'hui.
Si nous rentrons chez nous avec 300 milliards et que nous disons que les pays développés prennent les devants, c'est une insulte à ce que dit la Convention.
Pour tous, face au danger, et alors qu'en Espagne, Valence vivait des dégâts incommensurables, cette COP ne fut pas au niveau. On revient peu sur la responsabilité des énergies fossiles qui risquent, avec l'élection de Donald Trump, d'avoir de beaux jours devant elles. Enfin, période de crise financière mondiale, les financements attendus ne furent pas au rendez-vous. Alors que les accords de Paris nous autorisaient à 1,5 degré supplémentaire en 2100 par rapport au début de la révolution industrielle, nous en étions déjà à plus 1,7 degré en 2024. Chacun commence avec retard et face aux dégâts que l'on ne peut plus ignorer, à dresser des plans d'adaptation. Mais s'adapter ne veut pas dire renoncer. La France travaille sur les bases du double pilier atténuation-adaptation, double face de la même médaille, celle de la planification écologique. Grâce à Christophe Béchu, qui a été largement critiqué à l'époque pourtant pour son parti pris à plus 4 degrés à l'horizon 2100, la France, se réchauffant plus vite que le reste du monde et surtout de la Méditerranée, prend la mesure des risques. Les stratégies de construction et d'aménagement du territoire, de recul du trait de côte, de désenneigement des stations de ski, des inondations, des sécheresses se développent. On commence à regarder les choses en face, alors que de nombreux pays sont encore dans le déni. Malheureusement, les moyens nécessaires à l'adaptation ne sont pas au rendez-vous. Or, on le sait depuis la publication du rapport Stern en 2006, l'action coûtera de 5 à 20% du PIB mondial contre 1% celui de l'action. Plastique à Busan, en Corée du Sud. Elle fit moins la une des journaux, pourtant la conférence sur le plastique travaillait sur un enjeu de première importance. Nous avons tous touché du doigt la pollution plastique. Fléau des paysages et des mers, ennemis de nos santé. Si rien n'est fait, la production de plastique triplera d'ici à 2060, selon l'OCDE. Et sur la table, à Busan, un texte qui traite essentiellement des aspects déchets et recyclage, prévention et mécanismes financiers, mais qui n'aborde pas du tout ce qui crispe, à savoir les enjeux de réduction de la production, la question des toxiques et encore moins celle du carbone, qui reste un tabou absolu. Certaines zones dans la Méditerranée concentrent plus de 2 millions de fragments de plastique par kilomètre carré. La Malaisie, ce pays qui n'est même pas capable de s'occuper de ses propres déchets, reçoit les poubelles européennes et américaines. Les déchets plastiques brûlent à l'air libre, émettent des dioxines qui peuvent causer divers cancers ou malformations congénitales et qui s'accumulent dans la chaîne alimentaire. Je vous renvoie, pour faire le point sur ces fléaux, aux excellents reportages qui ont été faits par le journal Reporter et en Malaisie et en Méditerranée. À Busan, sur 175 pays, si 175 pays avaient répondu à l'appel et se disaient prêts à prendre des solutions, dès le départ, les pays pétroliers principaux producteurs, la Russie, l'Arabie Saoudite, ont fait obstruction. Les 2 ans de négociations qui avaient été fixés par le mandat adopté lors de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement en mars 2022 n'auront donc pas suffi. Il faudra au moins une session de négociations supplémentaires pour aboutir à un traité international contraignant contre la pollution plastique. Ce semaine s'ouvrait enfin à Riyad la rencontre sur la désertification. La parente pauvre des trois conventions signées en 1992 à Rio. Elle s'est ouverte lundi en Arabie Saoudite après que les experts aient tiré la sonnette d'alarme sur les graves conséquences de la déforestation et de l'agriculture intensive sur la planète. L'enjeu est de parvenir à un consensus sur la nécessité d'accélérer la restauration des terres dégradées et de développer une approche proactive des sécheresses. Nous avons déjà perdu 40% de nos terres et de nos sols. Et cette perte a des conséquences sur l'insécurité alimentaire et les migrations. Les sécheresses records sur la planète sont en train de devenir une nouvelle norme qui oblige les dirigeants à repenser radicalement leur gestion. L'année 2024, qui sera vraisemblablement la plus chaude jamais mesurée sur Terre, a été marquée par plusieurs sécheresses dévastatrices en Méditerranée, en Équateur, au Brésil, au Maroc, en Namibie, au Malawi, provoquant incendies, pénuries et problèmes de nourriture. 55 millions de personnes ont été touchées et c'est sans doute l'un des risques les plus coûteux et les plus meurtriers au niveau mondial. D'ici à 2050, 3 personnes sur 4 dans le monde seraient touchées en raison du réchauffement climatique causé essentiellement par la combustion des énergies fossiles. Cette rencontre a été suivie en France par la Journée mondiale des sols le 4 décembre. Frédéric Danhé, qui l'animait, est journaliste, auteur, expert des sols, et il a beaucoup travaillé avec le scientifique Marc-André Selloz. Frédéric Danhé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui, vous animez aujourd'hui la Journée mondiale des sols, et oui. Alors, qui se place en fait dans le cadre de cette convention qui est réunie aujourd'hui à Riyad sur la désertification.
Oui, c'est ça. Alors, la Journée mondiale des sols, en fait, c'est une semaine. On devrait dire Semaine mondiale des sols. Ça fait 10 ans que ça dure. Ça a été lancé par la FAO en 2014. Et chaque année, c'est l'Association française pour l'étude du sol qui l'organise avec quelques réseaux scientifiques. Cette année, c'est en Normandie. Donc, ça dure une semaine, je viens de le dire. Et effectivement, il y a un parallèle intéressant avec ce qui se passe à Riyad. La désertification, on parle de quoi? On parle des sols. D'ailleurs, quand on parle d'eau, on parle des sols. Quand on parle de changement climatique, on parle des sols. En fait, mine de rien, entre les différentes COP biodiversité, climat et puis là, désertification, on se rend compte que le point nodal, la clé de voûte de notre adaptation au changement climatique, c'est les sols et l'attitude que l'on aura vis-à-vis des sols. Et la désertification ne fait que mettre en exergue le point ultime de la dégradation des sols, qui est leur disparition par l'assèchement et l'érosion dominique.
Or, pourtant, on n'en parle pas assez. Enfin, moi, je trouve que quand on entend parler de la COP sur la désertification, sur le climat ou la COP sur la biodiversité, je trouve que les sols n'apparaissent pas suffisamment.
Non, c'est vrai. Alors qu'on s'est rendu compte à l'occasion de la sécheresse en 2022 en Europe et singulièrement en France, à l'occasion des inondations dramatiques de Valence, que le facteur limitant, c'est toujours les sols. Quand le sol est saturé d'eau, si jamais il lui tombe de l'eau en plus, ben ça va ruisseler. Et quand un sol est recouvert de macadam, il ne peut strictement rien retenir d'eau et c'est à nouveau le ruissellement. On n'en parle pas alors que c'est dans tous les esprits. Mais on n'en parle pas alors que c'est dans tous les esprits, peut-être parce qu'en France, le rapport au sol, il est particulier. Le sol, c'est la fondation de la propriété privée. La propriété privée, dans notre imaginaire collectif, on ne peut pas y toucher. Et puis le sol, c'est une boîte noire, on marche dessus. C'est sale, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, on y enterre nos morts, donc on n'a pas trop envie de s'y intéresser. Et le sol, effectivement, malgré le fait qu'on tourne autour, on n'ose pas mettre les pieds dedans parce que, c'est parce qu'on ne le connaît pas et on n'a pas trop envie de le connaître. Mais ça change lentement mais sûrement.
Alors,
ça change,
oui. Avant de parler peut-être de cet aspect profond, deep, quoi, je veux dire, du sol, vous avez évoqué quelque chose qui, moi, je trouve vraiment très intéressant, qui est cette notion de propriété privée. Oui. Le sol, en France, est considéré comme une propriété privée, alors qu'il devrait être un bien commun.
Ben, je suis d'accord. D'ailleurs, vous mettez le doigt sur l'essentiel. Le sol n'est pas considéré comme un bien commun dans le droit français. ils participent du bien commun dans la loi climat et dans la loi climat, dans la loi de reconquête de la biodiversité. Mais ça va plus loin que ça, Dominique. Le sol n'a pas d'existence juridique en France. Dans le code de l'environnement, il y a l'eau, il y a l'air, il y a la biodiversité, il y a les déchets, mais il n'y a rien sur les sols. Le sol n'a toujours pas d'existence juridique, alors qu'en fait, on ne cesse d'en parler que, par exemple, les débats sur l'immigration relèvent d'un débat sur le droit du sol. Donc, tant qu'il n'y aura pas d'existence juridique au sol, on pourra difficilement, effectivement, les préserver, même si c'est en train d'advenir avec la loi ZAN et avec, si on parle d'immobilier dans les villes, vous savez, la séparation du foncier du bâti, qui fait qu'on socialise le foncier pour permettre aux gens d'accéder à la propriété. Donc, c'est en train de changer, mais culturellement, on n'est pas prêt à ça, contrairement aux pays d'Europe du Nord, où le foncier est séparé du bâti, et donc on accepte l'idée que le foncier, que la maison que l'on a achetée, elle est bâtie sur un foncier qui n'appartient pas au propriétaire. Et ça, c'est vachement important.
Mais ça, on va en reparler plus longuement, ouais. Parce que j'espère donc pouvoir faire une émission avec vous uniquement sur les sols au mois de janvier. Donc, on va se retrouver largement pour en parler. Et là, simplement pour conclure aujourd'hui, ouais. Puisque c'est quelque chose, c'est juste un peu une petite approche un peu brève. Vous allez proposer quoi pour que ces sols soient restaurés, puisque c'est quand même vraiment la position qui va être défendue aussi au niveau de la Convention de désertification. C'est-à-dire que les sols dans le monde, il n'y a pas qu'en France, sont abîmés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Eh bien, il faut déjà les connaître. On ne protège bien que ce que l'on connaît. Il faut les rendre aussi présents dans l'actualité que l'eau, que la biodiversité. Il faut en faire un sujet de discussion normal, il faut en faire un sujet de discussion politique normal. Quand on parle du foncier, quand on parle d'immobilier, on doit parler des sols. Quand on parle de biodiversité, on doit parler des sols. Quand on parle d'eau, on doit parler des sols. Il faut l'expliquer, il faut former les gens, et en particulier surtout, un, les élus, pour qu'ils acceptent la loi ZAN, etc., de ne pas trop articuler.
Mais la loi ZAN, on est en train de revenir dessus, d'après ce que j'ai compris.
Et les sénateurs sont en train de revenir dessus, et Michel Barnier, étonnamment, parce que Michel Barnier connaît bien le sujet, et avait dit, avant qu'il soit sans doute supprimé, éliminé en tant que Premier ministre, Michel Barnier a dit qu'il était globalement d'accord avec les sénateurs. Alors c'est assez dramatique, bon bref, on ne reviendra pas dessus parce que le sujet est complexe, mais en tout cas le ZAN revenait à donner une valeur au moins symbolique, si ce n'est juridique, au sol. L'essentiel ensuite, c'est les agriculteurs, et le monde agricole, tout doucement, il vient, sans avoir l'air d'y toucher. Je vous fais très très court, Dominique, le monde agricole s'est rendu compte, par exemple, les producteurs de patates chez moi dans le Nord, quand on passe entre le conventionnel et une agriculture qu'on appelle conservation des sols, où on laboure très peu, où on laisse les sols couverts en permanence pour ne pas les dégrader, la facture de gasoil était divisée par 2 à 3 à l'hectare. Voilà. Et du coup, les agriculteurs qui se rendent compte de ça, qui en plus cassent moins de fer, cassent moins de charrue parce qu'ils ne passent plus la charrue, et qui en plus utilisent moins d'engrais et moins de pesticides parce que les sols retrouvent de la vie, ils s'intéressent au sol.
Bon, alors
ils en viennent à le protéger.
Ça, voilà. C'est chez nous. Mais parlons maintenant Afrique, Inde, Asie, qui sont aujourd'hui déjà très abîmés. Et d'après le CDE, on apprend aussi que les choses vont aller en empirant. Qu'est-ce qu'il faut immédiatement stopper, ou qu'est-ce qu'on doit immédiatement proposer d'urgence à cette COP?
C'est que l'agriculture de chaque pays, de chaque région, de chaque parcelle soit adaptée à la qualité, à la structure de ses sols. Autrement dit, que dans un pays avec des sols très peu épais, plein de cailloux, on n'importe pas le modèle du labour occidental. C'est ce qui avait occasionné les raisins de la colère aux États-Unis dans le Middle West dans les années 30, où on avait labouré des sols qui n'étaient pas faits pour ça. Ils étaient partis en poussière et 3,5 millions d'Américains, souvenez-vous, avaient dû foutre le camp en Californie, à l'ouest du Canada. Voilà, c'est à arrêter de vouloir adapter des modèles, qui sont souvent les modèles occidentaux, à tous les sols. C'est pas possible. C'est d'abord regarder les sols, d'abord regarder comment ils fonctionnent, quel est leur niveau de matière organique, leur structure, pour ensuite se demander ce qu'on va pouvoir y faire, et est-ce qu'on va pouvoir vraiment les labourer, et quel taux d'engrais, de pesticides on va pouvoir leur donner, voire pas du tout de pesticides, qui seront connus. C'est en revenir à l'essentiel, c'est-à-dire d'abord les sols, et ensuite, c'est les sols qui vont dicter le modèle agricole, et pas l'inverse. Ça, c'est une révolution, et en même temps, elle est en cours en Afrique. En Inde, par exemple, l'Inde est un des pays qui fait le plus d'analyses de sol, qui a le plus compris ce qui avait été proposé par Stéphane Le Foll en France, le programme 4 pour 1000, hein, qui dit en gros, touchez plus au sol, vous augmenterez le taux de matière organique et du coup, le sol absorbera plus de carbone. Et l'Inde, et en partie la Chine, mais surtout l'Inde, c'est un des pays les plus actifs en la matière sur la préservation des sols par une meilleure connaissance des sols et une adaptation du modèle agricole au sol et pas l'inverse.
Bien, bah, écoutez, merci Frédéric
et
on se retrouve donc plus longuement au mois de janvier sur Nous n'avons qu'une terre. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Quittons maintenant le monde pour retrouver notre région. Eh bien, commençons d'abord par une bonne nouvelle. Nous avons beaucoup suivi au cours de cette émission, Nous n'avons qu'une terre, les problèmes de l'A69 et les conflits qui existaient entre la région, les écureuils, les médias, les forces de l'ordre, etc. Eh bien, une victoire est peut-être au bout des doigts. Lundi 25 novembre, le tribunal administratif de Toulouse a examiné le recours sur le fond déposé par les opposants à l'autoroute A69. Mona Rousseau, la rapporteure publique, a demandé l'annulation des autorisations et dans ses conclusions, elle indique que la raison impérative d'intérêt public majeur n'est pas caractérisée, tant au niveau des bénéfices apportés par la future autoroute en termes d'attractivité économique du Tarn Sud, qu'en matière de sécurité des déplacements, ou encore d'amélioration du confort de vie des populations. On saura si le tribunal administratif de Toulouse décide de suivre la proposition de la rapporteure publique en prononçant l'annulation des autorisations environnementales encadrant le chantier de l'autoroute A69. Donc, réponse attendue avant le 15 décembre. Mobilisation pour l'adaptation. Enfin, il a vu le jour. Il était prévu pour juillet 2023, le PNAC 3, le Plan National Adaptation Climat. Il a été finalement publié en novembre dernier. Et c'est aussi une version rabougrie du plan programmé par le gouvernement précédent. Depuis 1980, on arrive à plus de 120 milliards d'euros de dommages liés au changement climatique en France. Où sont les financements dédiés à l'adaptation ? Nulle part. Une version précédente de ce plan, qui date de juillet, mentionnait un fonds d'adaptation de 150 millions d'euros. C'était largement insuffisant, mais cela avait au moins le mérite d'exister. Dans le PNAC 3, il a disparu du texte, mis à la concertation. Certes, il y a une meilleure analyse de ce que représente l'adaptation au changement climatique, mais sans financement ni moyens contraignants, rien ne se passera correctement. Et déjà, les collectivités investissent sur des protections immédiates qui sont à terme des maladaptations. Dans ce cadre, Agnès Pannier-Runacher a rappelé lors du Salon des maires qu'un dispositif guichet unique ouvert était destiné à fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs projets d'adaptation. C'est en fait la 25e des 51 mesures annoncées le 25 octobre dernier par Michel Barnier et dont on ne sait pas ce qu'il restera. Une pléiade d'experts devait aider les collectivités qui n'en ont pas les moyens à procéder à des démarches plus intégrées, plus spécifiques. La mission adaptation imagine l'accompagnement d'une centaine de territoires avant fin décembre, avant une généralisation en 2025. Bien sûr, en 2025, nous reviendrons dans notre émission sur ce plan adaptation en lien avec les collectivités qui l'utilisent et en relevant leur avis. Cette semaine compliquée politiquement à risque. On va voir voler en éclats les news peut-être que nous venons de développer. Mais la semaine prochaine, le prospectiviste Denis Lacroix, qui vient de prendre sa retraite d'Ifremer et d'embrasser la responsabilité de secrétaire général du Plan Bleu, viendra nous présenter les scénarios qui ont été élaborés pour la Méditerranée et pour les années à venir. En attendant, nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente semaine et un bon week-end.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.